Mais c'est pour ça que la question, c'est qui est beau? C'est-à-dire que quand une femme noire, non blanche, a des yeux, a des lèvres pulpeuses, a des hanches, un fessier rebondi, c'est pas beau. Quand c'est une femme blanche, c'est magnifique. De la même manière que des yeux très en amande sur des personnes asiatiques, on va considérer que c'est quelconque ou que voilà, enfin c'est pas joli. Mais une femme qui serait blanche et qui aurait d'autres traits, mais juste les yeux très très en amande, eh ben ça va être beau. C'est pareil, ses coiffures, etc. Et donc finalement, on a l'impression que des caractéristiques qui sont considérées comme des marqueurs ethniques sur les gens dont c'est l'ethnicité. En fait, ils sont considérés comme moches, alors que sur des personnes blanches, on va les trouver magnifiques parce que c'est la dose suffisante pour ne pas être complètement déblanchies.
Et puis un autre problème, c'est que dans l'imaginaire, on croit que toutes les femmes noires ont des grosses fesses, des hanches, un certain type de lèvres, etc. Alors qu'il y a autant de femmes noires qu'il y a de corps possibles. Et donc c'est plus cette idée d'aller cultiver dans des clichés aussi, qui ont été beaucoup amenés par la culture. Culture hip-hop, la musique, parfois le cinéma, etc. Et récemment, il y a eu toute cette tendance, alors à chaque fois je mets des guillemets parce que ce ne sont pas des tendances, la tendance Ratchet via Cardi B, avec les ongles hyper longs, un parler un peu vulgaire, enfin en tout cas qui est considéré comme tel, un maquillage très très chargé, et d'un coup, alors nous en France ce serait un peu l'équivalent de la cagole, et donc d'un coup ça devient très tendance, et donc ce qui a été décrié pendant des décennies, depuis toujours, par un certain type de femmes dans certains types de quartiers, d'un coup c'est devenu très tendance et donc tout le monde a envie de l'adopter. Et récemment, il y a Kylie Jenner qui a décidé de se réduire les lèvres parce qu'elle estimait que voilà, elle n'avait plus envie d'avoir des grosses lèvres. Donc il y a vraiment cette idée de choix. On choisit d'appartenir à telle ou telle esthétique et c'est très grave. Mais ce que je trouve intéressant, on avait fait alors c'était pas vraiment un crossover, mais t'étais invitée dans mon podcast avec Thérèse Sarayat, et justement on parlait du nombre de femmes asiatiques qui se teignaient en blonde, notamment via un article du New Yorker qui en parlait. Et donc il y avait cette idée où on se disait en fait que ça pouvait être aussi juste esthétique et qu'il y avait pas toujours cette envie de vouloir ressembler à une personne dominante. Et donc parfois je me pose la question, mais vraiment, même si je sais que c'est lié à des années d'inversion dans notre tête et que c'est psychologique et que la colonisation est passée par là, l'esclavage est passé par là, etc. Je me demande en fait si, par exemple, une femme noire a envie de se défriser les cheveux, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a envie de ressembler à une personne blanche, ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle trouve ça plus joli? Et c'est là où justement notre question du début, elle se pose, à savoir qui décide du beau ou du pas beau. Parce que est-ce que quelqu'un qui a envie de se refaire le nez se le refait parce qu'il se dit j'ai un nez qui ressemble trop à ce qu'on pourrait penser d'un nez africain, ou est-ce que juste parce qu'il trouve ça plus beau? Et donc, c'est vraiment une question à laquelle j'ai pas la réponse. Mais
je pense que la beauté, c'est vraiment le fruit d'un rapport de force historique, quoi. C'est que finalement, ce qui est considéré comme beau, c'est ce que des gens qui sont en position de pouvoir ont été en capacité d'imposer comme étant beau. Et finalement, quand on trouve quelque chose beau, en fait, il faut toujours se demander pourquoi et d'où ça vient. C'est comme quand on avait parlé lors d'un Kiftaraf live sur l'attirance qu'on peut avoir, par exemple, en tant que femme hétérosexuelle pour des hommes plus grands. Est-ce que c'est plus beau? Non, c'est parce que ça correspond en fait à ce qu'on se dit du couple, que l'homme doit être plus grand, protecteur, etc. Enfin, ou pareil par rapport à l'âge. Enfin, ce sont des choses qui individuellement, on va trouver ça tout à fait logique, mais en réalité, comme c'est une pensée qui est partagée collectivement, on peut pas s'empêcher de dire que ça a été forgé par des croyances sociologiques, par les contes de fées, par ce qu'on peut voir dans les séries, etc. Donc, c'est pourquoi c'est beau? Et est-ce que le mouvement inverse existe? Est-ce qu'on va voir des gens qui ont un nez fin se le faire élargir? Jamais.
Mais il y a vraiment cette idée, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de tendance. Et je pense que là, les médias ont un fort pouvoir à ce niveau-là, parce qu'il y a souvent ce truc d'un coup, ça devient tendance, donc tout le monde s'y intéresse. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ne choisissent pas, en fait, leur couleur de peau, leurs cheveux, leur corps, leur manière d'être, en fait, parce que c'est en eux. Et ça, c'est un vrai, vrai problème. Je pensais notamment, en dehors du côté très corporel, c'est aussi les codes esthétiques, parfois, qui sont empruntés, notamment certains artistes qui choisissent, à un moment, je pensais à Justin Timberlake ou Miley Cyrus, qui, à un moment, vont se dire, c'est très cool d'être un peu afro, donc je vais un peu mimer des codes qui pour eux, en tout cas, sonnaient hip-hop ou en tout cas afro. Et d'un coup, en fait, ils décident de redevenir blanc.
Ah ouais, quand j'ai vu que l'album d'après c'était de la country, je me suis dit, mais le mec.
mais il a carrément fait une couve où il disait, clairement, en fait, je redeviens blanc, quoi. Et c'est un vrai problème. Et je pense que c'est ça, c'est que. À la fois, on a des choses qui sont enfouies en nous et qui font que même si la société évolue, ça n'évolue pas tant que ça. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui pensent que ce sont des tendances et qui participent à ça en choisissant de l'être ou non à un moment donné. Et quand ils n'en veulent plus parce que ça leur a servi ou que ça leur sert plus du tout, ils changent d'avis. Donc Ariana Grande en ce moment est un peu est très mat de peau. Peut-être que demain elle va redevenir blanche.
J'ai cru en voyant Seven Rings parce que je la connaissais pas spécialement avant. Moi je pensais que c'était une femme noire. Je pensais qu'elle était racially ambiguous comme tu dis. Je pensais que c'était Mariah Carey en fait, la nouvelle Mariah Carey puisque et en fait
et bien,
bah non. Quand j'ai vu la polémique, je me suis dit oh, what. Mais c'est vrai que ça c'est demain elle va faire de la country peut-être. Mais ça faut.
C'est un luxe en fait.
Exactement, ouais. c'est que il y a des artistes qui peuvent pas demain faire un truc irlandais ou changer de
Yana Kamura et Chant Breton là, ça va être un peu compliqué quoi. Enfin, elle pourrait en fait,
oui,
mais ça passerait pas en fait. Voilà,
c'est ça, mais son esthétique ne changera pas forcément, même si elle peut changer de tissage, de coiffure, etc. Elle restera une femme noire foncée, noire de peau. Qui dans la société n'est pas considérée comme la plus belle ou la plus valorisée. Et c'est ça le problème, c'est pas tant la musique qu'elle fait, c'est vraiment les codes qui l'entourent.
C'est que là encore, il y a l'universel qui peut tout faire. Hein. Il peut faire du R&B, il peut faire de la country, il peut faire demain il fait du classique, tout va bien. Et il y a des personnes qui sont cantonnées dans leur petit domaine réservé qui est lié à leur physique, qui est lié à l'histoire de leur héritage et ils ne peuvent pas en sortir. Donc ça, c'est aussi une expression de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que elle ne va que dans un sens.
Ouais, elles peuvent pas en sortir et puis d'autres peuvent piocher dedans. C'est-à-dire que c'est
fishing, go fishing. Alors, Maboula, on est bien d'accord que le mot race, c'est une construction sociologique et que la race biologique n'existe pas.
Oui, on va le dire d'emblée, pour rassurer tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains, il n'y a qu'une seule espèce, une seule race, c'est la race humaine. Nous avons le même sang, les mêmes gènes, composante de la peau. Voilà, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Nous, au niveau biologique, au niveau scientifique, ben voilà, c'est ça.
Alors donc, pourquoi on parle de race ? Parce que la race n'existe pas.
Oui, alors donc cette race basée dans la science et dans la biologie n'existe pas. Sauf que le monde n'est pas régi uniquement par la science et la biologie. Il y a aussi des rapports sociaux, il y a des rapports, politiques, sociologiques, enfin ce que vous voulez. C'est-à-dire que les êtres humains s'organisent politiquement, au sein de sociétés. Et dans ces sociétés, il n'est pas du tout question de l'aspect commun de notre patrimoine génétique. Donc on a construit des groupes sur la base, surtout si on parle depuis, donc là nous sommes à Paris, nous sommes en France, nous sommes en Occident. Donc l'Occident a dans son, je sais pas, son histoire, a conçu, a fabriqué des groupes raciaux qui se distingueraient sur la base d'attributs physiques. Voilà, et la race fonctionne comme ça depuis plusieurs siècles. Il y a toute une histoire, mais on pourra en parler. Mais c'est ça, la race. C'est la race et sa fonction sociale qui, elle, est réelle.
Donc les races, c'est plutôt des catégories sociales, c'est ça ?
C'est des catégories sociales et c'est des catégories politiques. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir, d'être blanc, d'être, je sais pas, jaune, d'être amérindien, d'être rom ? Voilà, ce sont des identités qui ont été fabriquées, qui n'ont pas toujours existé à travers l'histoire. Il y a eu beaucoup de façons inventées par les êtres humains et par les sociétés humaines pour fabriquer des catégories. Mais en ce moment, on est en 2018 et depuis, on va dire, la fin du 15e siècle, on est dans les catégories dont nous parlons aujourd'hui. Les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les roms. Et on fabrique plein de races. On pourrait ajouter, je ne sais pas moi, la race des homosexuels. On pourrait ajouter la race des musulmans, ça c'est récent. On pourrait ajouter, je ne sais pas, la race des transgenres. Enfin, il y a plein de choses. On est, en tant qu'être humain, et là j'utilise le « nous » de manière très consciente, on sait fabriquer des groupes. Voilà.
Mais sur la Shoah, je vais te poser une question. Moi, ce que je trouve, le rejet que je vois dans la notion de race, il est aussi lié à cette honte par rapport à la Shoah, parce que effectivement, la seule fois où on a recensé la population française sur des critères raciaux, même si là on est vraiment dans l'idée de la race fabriquée, c'était pour les exterminer. Exactement. Donc c'était vraiment pour les stigmatiser avec une étoile, les déporter, et les exterminer. Donc du coup, l'idée qu'on a en France de la race, c'est une idée oppressive avec un gouvernement qui peut mobiliser des données pour tuer des gens.
Bien sûr. Et la première fois qu'on a recensé la population juive, enfin on les a comptés, de déclarations à la préfecture, enfin ce qui permettait, je sais pas moi, quand on pense à la rafle du Veldiv, elle est aussi très très connue, elle est aussi très très blessante pour la France et pour la communauté juive, parce que c'est les autorités françaises qui l'ont fait, c'est pas les autorités juives qui ont mené à bien cette opération. Mais cette catégorisation, peut-être qu'elle fait mal parce que c'est passé en France hexagonale.
Ce qui veut dire que ça nous amène à nous poser la question de comment on peut transformer les choses. Une idée dominante, qui n'est pas neutre, est diffusée dans nos médias, dans nos programmes scolaires, dans l'air du temps. C'est que c'est un problème de mentalité. Il faudrait changer les mentalités. Ça, c'est une production qui reproduit la domination. Si les femmes attendent que les hommes changent de mentalité pour avoir l'égalité, elles peuvent attendre longtemps. Si les ouvriers attendent que les patrons changent de mentalité pour avoir des conditions plus justes, ils peuvent attendre longtemps. Ouais, ouais. Si les immigrés attendent que le reste de la société comprenne leur place, ils peuvent attendre longtemps. Si les handicapés attendent que les valides conscientisent toutes les inégalités en tant que handicapés, ils peuvent attendre longtemps. Sarkozy. En réalité,
Sarkozy, il a dit qu'il a changé.
Oui,
bah, il avait dit qu'il a changé. On peut attendre, on a attendu.
Autrement dit, ça n'est pas le changement de mentalité. L'histoire de l'humanité montre que c'est lorsqu'on impose une égalité concrète que les mentalités changent et pas le changement de mentalité qui amène le changement réel. Je pense toujours à un exemple qui m'a beaucoup marqué. Qui était un travail que je menais avec des personnes en situation de handicap. Et elle me disait, mais c'est elles qui m'ont ouvert là-dessus, en me disant, mais nous, on est pour qu'il y ait des places de parking où ça soit noté pour personnes handicapées. Je leur disais, mais pourquoi ? Et elle me disait, ben, tout simplement, parce que ça fait des décennies qu'on attend le changement de mentalité. Là, au moins, la personne valide qui roule, ça veut dire qu'elle respecte, hein, parfois elle se gare quand même. Mais n'empêche, elle est obligée de se poser la question. Elle voit à ce moment-là, ah, il y a 30 secondes où elle est obligée de se questionner. Après, elle peut décider d'y aller quand même, c'est un salaud ou une salope, mais elle est obligée de se questionner. Et donc, c'est le changement matériel. C'est pour ça que le mouvement ouvrier a imposé des lois, des changements matériels, qui amènent le changement de mentalité, et pas le changement de mentalité qui amène le changement réel. Si on distingue bien ce que c'est une oppression, une exploitation, une domination, du coup, on peut se poser la question des conditions pour que ça fonctionne. Pourquoi ça marche ? Pourquoi il y a des dominations et on ne se révolte pas ? Eh bien, je voudrais vous citer des auteurs qu'on ne nous apprend pas. Je voudrais m'appuyer sur un auteur qui est Franz Fanon, qui est quelqu'un que ceux qui ne connaissent pas, franchement, il faut le lire. il est d'une actualité brûlante. Franz Fanon, il a commencé par s'interroger au compte du... Il s'est posé la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait eu instauration de l'esclavage sans que, ici en France, en Angleterre, en Espagne, il y ait une révolte généralisée en disant mais on ne peut pas faire ça à des êtres humains. Comment ça a été possible? Et non seulement il n'y a pas eu de révolte, mais il y a eu approbation. Pas parce que les gens étaient salauds. Et François Hollande nous dit, pour qu'il y ait domination, il faut qu'on socialise les dominants et les dominés, ou les futurs dominants et les futurs dominés, pour que ça leur apparaisse comme normal. Et donc, on comprend mieux pourquoi il y a eu une campagne idéologique aussi importante. 15e, 16e, 17e, 18e siècle, on a eu une campagne des classes dominantes pour justifier l'esclavage. Et on l'a fait comment? On a mis dans la tête des peuples des pays qui allaient esclavagiser qu'ils étaient supérieurs à d'autres. Comment on a mis dans la tête des hommes qu'ils étaient supérieurs aux femmes? Donc on socialise les dominants pour qu'ils ne se soient pas choqués par la domination. Mais on socialise les dominés aussi pour que leur domination leur apparaisse comme naturelle. Et donc la force de la domination, c'est de nous éduquer, nous socialiser pour que ce qui est scandaleux apparaisse comme normal. Et c'est là toute la difficulté. Heureusement qu'il y a eu des résistances et nous sommes ceux qui sont un peu fatigués ou se disent on n'y arrivera pas. Ils doivent juste avoir en tête ce processus-là. Parce que si on a ce processus-là, on comprend pourquoi c'est difficile. On comprend pourquoi c'est long. Et on comprend pourquoi il faut continuer et que, en réalité, à long terme, on va gagner. C'est qu'en réalité, c'est parce qu'il y a ces situations-là qu'on n'y arrive pas. C'est pas parce qu'on s'est trompé. C'est pas parce qu'on a pris de mauvaises luttes. C'est pas parce qu'on a faux sur tout. C'est l'inverse. C'est qu'on est face à un système et pas seulement face à des méchants. C'est un système qui nous éduque et qui éduque nos oppresseurs pour que ça apparaisse comme normal.